RMC.
Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai eu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Le Super Football Show.
Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, je n'y vais pas dans ces boîtes-là.
Nicolas Villas. Toujours accompagné de Jérôme Roten, de Daniel Riolo, Patrice Sadat, président du Red Star est avec nous et Thomas Pitrel nous a rejoint. Bonsoir Thomas, merci
bonsoir,
d'être avec
bonsoir
nous.
Bonsoir à tous.
Alors il est pas venu les mains vides Thomas, il est venu avec ça. Héros oublié de la Coupe du Monde, c'est aux éditions Contre-Histoire. Alors c'est quoi, c'est des recueils d'articles sauf foot, c'est ça?
Alors c'est pas seulement des recueils d'articles sauf foot, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux tiers d'articles qui ont déjà été publiés dans les sauf foot plus ou moins récents et il y a un tiers d'inédits quoi.
Alors c'est un beau livre au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire c'est déjà il est joli physiquement, il y a des très très belles histoires.
Physiquement.
Non mais si, matériellement si tu veux. Non mais il est beau le livre. Merde.
Non, on s'est compris. Non, mais... on s'est compris, t'inquiète.
D'un point de vue physique, méta-biologique, tu vois, c'est des beaux papiers quoi. Ouais, la merde, c'est bon carton ça quand même.
Mmh. Ouais, beaucoup de temps à choisir le papier.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Ah, c'est souvent le plus dur. J'ai le même problème pour la salle de
bain. Très important le grammage.
Surtout du papier dans la salle de bain, c'est une grosse connerie.
Ouais.
T'as pas suivi Thomas déjà, ça commence pas bien. On finit la vie tranchée de Patrice, t'étais en plein élan, Daniel.
Oui,
on a développé
le
métier de sélectionneur le plus dur du monde.
Je terminais sur le dernier point que tu disais. Et puis après, parfois, le sélectionneur se retrouve confronté au fait de jeu et tout. Moi, j'ai toujours considéré que l'entraîneur et le sélectionneur, ce qu'on appelle l'incertitude, ils devaient faire en sorte au maximum de la maîtriser, l'incertitude. Uh-huh. Donc, oui, effectivement, si c'est sur une finale, un coup du sort, machin, mais globalement, pour ton aventure et la façon dont tu diriges ton équipe, c'est mieux si t'as maîtrisé le maximum de choses, quand même. Et que justement, ces faits de jeu-là ne doivent être que marginales dans ton histoire. Voilà. Domenech, on a bien vu que sur sa période de sélectionneur, le coup de boule de Zidane, c'est marginal pour lui. Par rapport à ses échecs, à ce qu'il a réellement fait quand il était à la tête de cette équipe, à savoir rien. Donc finalement, c'est anecdotique.
Et Deschamps, bah, donc pas c'est si anecdotique que ça, parce que si sans le coup de boule, comme dit Patrice, t'es champion du monde, je t'annonce tout ce qu'il a fait pas bien
donc
avant
la,
ou après.
La,
mais
quelque
la,
part,
la, mais la frange,
t'es
elle
champion
est.
Mais t'es champion du monde.
Attends,
quand même.
La frange est.
Bien sûr. Mais il l'est pas.
Non. Mais cette frange entre, tu vois là. L'être ou ne pas l'être est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'elle est, tu la maîtrises pas, et d'accepter de se confronter à ça, c'est quand même, tu vois, un certain niveau de caractère et de mental. Tu représentes la France à un moment donné ou le pays. Quand tu vois l'Islande, par exemple, en Coupe d'Europe.
Non, je dis pas que c'est simple.
Mais imagine-toi le sélectionneur en face de l'Islande, quoi, celui de l'Angleterre. Les moyens sont.
La population de l'Islande, je crois que c'est l'équivalent de la ville de Leicester en Angleterre. Comme ça.
Donc à un moment donné, tu te confrontes. Quand tu vas te confronter à l'Islande, tu t'as pas peur de ce match.
Mais tout le monde serait prêt à se confronter à ça finalement. Encore une fois, tout le monde ne peut pas.
Oui.
Mais tout le monde serait excité à l'idée de.
C'est vrai qu'il faut dire difficile.
C'est pour ça qu'on
et pas donné à tout le monde.
Aujourd'hui, le footballeur est une rockstar.
Oui.
Avant, on adulait la rockstar, beaucoup moins maintenant. Puisque notre mode de consommation de la musique et des rockstars aujourd'hui, c'est le footeux qui a remplacé. D'ailleurs, quand tu vois la corbeille d'un stade de foot, c'est justement les artistes et les gens du rock, de la musique.
Mais
et
quels
tout,
sont les héros en sélectionneur? Donne-moi des héros en sélectionneur. T'en as pas, tu dis des rockstars, mais c'est pas des héros.
Des héros, non.
Les héros, c'est les joueurs.
Les joueurs sont les héros.
Donc,
le sélectionneur, il faut qu'il...
C'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre sur un piédestal les anciens, plutôt. Tu vois, les...
Une fois qu'il a gagné, ouais.
Non, les Herrera, les Cruyff, hein, voilà. Si, Guardiola,
ouais,
quand même.
Ouais. Guardiola, bien sûr.
Même Mourinho, il a un certain charisme.
Ils sont quand même rares à un très très haut niveau. Et dans
c'est encore plus vrai parce que parce que là t'as cité des entraîneurs et Patrice parlait
des sélectionneurs.
C'est pas la même chose sélectionneur. C'est pas la même chose dans cette représentation du pays.
Et c'est pas sûr que l'un puisse devenir un très très bon sélectionneur.
Mais c'est vrai que t'as raison que sélectionneur, à part le mec qui gagne un trophée et qui d'un coup devient une sorte de héros.
Tabarez.
Sinon.
Non mais Jacquet qui a fait quand même.
En Uruguay.
Jacquet aujourd'hui c'est sorte le professeur ultime quoi.
Ouais.
On va accueillir Nadir qui est supporter du Red Star et qui nous a appelé au 32-16 et qui a un avis sur ton avis tranché à toi aussi. Salut Nadir.
Bonsoir Nico, bonsoir Président Haddad, bonsoir Jérôme.
Salut.
Et bonsoir Daniel. Bon, juste vite fait, après je vous arrête. Le Red Star c'est seulement un Bauer. On va redire par rapport à un avis tranché. Donc moi je trouve que c'est facile d'être sélectionneur de l'équipe de France parce qu'on a pléthore de joueurs. Comme le disait Daniel, on rêve tous des sélectionneurs. Quand tu vois le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, ils sont virés tous les ans avec une pression immense, phénoménale de toute la presse.
Ah oui, c'est une autre pression.
En Russie, ça va être la même.
Plutôt light en France. un grand sélectionneur, Baïd Ali Lodzik. Je veux dire, lui, ce qu'il a fait, je suis d'origine algérienne, mais on va encourager à fond l'équipe de France. Je crois qu'il a eu beaucoup la pression, il a fait un merveilleux travail. Et pour faire un clin d'œil à Patrice, je crois que c'est difficile d'être entraîneur du Red Star parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs, justement. Enfin, pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas pléthore. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être dans une équipe et d'en faire des champions que, justement, l'équipe de France. Moi, franchement, c'est un régal. On a le choix. Même si c'est difficile, on a le choix. On a Benzema. On a
le plus dur, c'est d'avoir le choix. C'est la contre juge aussi. C'est sur tes choix.
Le choix, ça veut dire en faire. Et quand tu dois en faire...
Choisir, c'est renoncer.
Oui. Donc, il y en a tellement, justement, et qui jouent dans des grands clubs, etc., que la difficulté, c'est ce choix ultime entre deux joueurs. Pas prendre Benzema, à un moment donné, au-delà des raisons, c'est un vrai choix et qui doit amener la victoire au bout, malgré tout, sans lui. Hein.
Exactement.
Bien sûr.
Merci Nadir de nous avoir appelé en tout cas.
Eh ben de rien, et puis merci. J'espère qu'on jouera à bord.
Hein. On va jouer.
2023.
On va jouer.
T'inquiète, tu vas pas lâcher.
On va pas lâcher.
Allez, ciao.
Salut Nadir, merci de nous avoir appelé. À très vite, Nadir. T'as un petit avis là-dessus, Thibaut, ou pas, là, sur la question du sélectionneur?
Thomas.
Pourquoi je t'appelle Victor? Je l'appelle Thibaut. Je sais pas pourquoi. Mais ça te va bien, Thibaut?
Ouais, sans doute. Ouais.
Excuse-moi.
Tu peux m'appeler Thibaut si tu veux pour le reste de l'émission.
Je t'appelle Pitrel, ça va être plus simple. Ça, je me plante pas. T'as un avis sur l'avis tranché de Patrice également? Métier de sélectionneur, c'est dur.
Bah oui, non, mais c'est d'autant plus dur qu'il y a 10 matchs par an, 15 matchs par an, et que effectivement, en fait, le choix est ce qui est le plus compliqué. Je pense que essayer de tirer le maximum d'un effectif arrêté, c'est une chose. Essayer de tirer le maximum et choisir parmi un vivier de joueurs quasiment infini, c'est très compliqué. Il y a une compétition tous les deux ans. Enfin, on peut très vite être jugé sur une défaite au premier tour, alors que par exemple on a fait un super boulot, quoi.
Ouais.
Donc je pense effectivement que le métier de sélectionneur est plus dur que celui d'entraîneur.
Ce qui était le cas de Michel Platini, entre autres.
Ouais.
Ouais.
Bah ouais.
Ah non, ça n'a rien à voir. Platini ne voulait pas le faire.
Bah, non,
Platini a senti tout de suite que c'était pas pour lui, que ça l'intéressait pas. Il dirige même pas les séances.
Non, mais qui dirige ou pas, Daniel, quand tu te souviens des qualifs, il gagne tout.
Oui, mais c'est pas,
il gagne tout, il arrive à l'Euro, il se plante.
Il dirigeait peu, c'est Houillet qui faisait les séances, il était là. Mais très vite, il a senti, c'est pas pour lui, c'est pas son truc, on l'a propulsé là.
C'est pas le seul entraîneur qui dirigeait pas les séances, hein.
Oui, mais lui en a eu conscience, et lui a très vite compris que c'était pas un métier pour lui. Après, il y en a d'autres, oui.
Les gars, quelques infos équipe de France.
Ouais, d'accord.
Ça va, interrogé par l'AFP, Noël Le Graët, le président de la FED, a évoqué le cas de Benzema, alors qu'il a remporté, vous le savez,
si
de nouveau
sur la phrase de
la Ligue des Champions
Thomas en aille
avec le Real Madrid, mais qui n'a plus joué en bleu depuis octobre 2015. Je cite Noël Le Graët concernant Benzema, c'est de l'histoire ancienne. On ne peut pas revenir en arrière. Tout le monde accepte de dire que c'est un grand joueur, titulaire au Real tout le temps. Il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, c'est quelqu'un. En finale, il a été exceptionnel, mais c'est de l'histoire ancienne. Notre équipe de France a maintenant son style de jeu et on ne peut pas revenir en arrière, insiste Noël Le Graët. Réponse de Karim Benzema sur son compte Twitter, c'était il y a quelques heures maintenant. Monsieur Le Graët, avec tout le respect que je vous dois, vous avez perdu une occasion de vous taire, car je découvre votre vrai visage qui n'est pas celui qui disait beaucoup m'aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur. Voilà, nouvel épisode dans la guerre, Le Graët. Benzema qui n'existait pas d'ailleurs jusqu'ici, la guerre.
Il voulait, en fait, il voulait que Le Graët dise quoi, en fait, dise rien. Je comprends pas, en fait. Il lui reproche quoi?
Bah, d'avoir dit peut-être que c'était de l'histoire ancienne, justement.
Non,
c'est un constat.
Non, c'est pas ça. Enfin, en l'occurrence, qu'est-ce que tu veux qu'il dise à ce moment-là?
Non.
Non, parce que moi, je sais que Le Graët a beaucoup caressé dans le sens du poil Benzema.
Bah, c'est ce que dit Benzema dans son tweet, d'ailleurs.
Sur ses derniers temps, voilà. En douce, genre, je vais peut-être essayer deux, je vais peut-être machin, voilà, il y a eu des liens entre l'agent de Benzema lui-même et Le Graët. Le Graët a beaucoup câliné. Benzema.
Bon, c'est pas Le Graët qui décide dans tous les cas.
Donc il le prend mal parce qu'il dit aujourd'hui
deux, hein.
C'est de l'histoire ancienne.
De quoi?
Non, le communiqué de la Fédé quand Karim Benzema a été écarté, c'est décision de Noël Le Graët et Didier Deschamps.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, une fois qu'il n'est pas écarté, du moins pas écarté pour les.
À ce moment, la sélection à l'avance, c'est que c'est sans lui. À un moment, tu veux qu'il dise quoi, Le Graët?
Il assume. Non, c'est que le président assume les choix de son coach. Il est obligé. Et puis, à un moment donné, essayer de mettre un terme à cette histoire.
Le seul truc qui est foireux dans la phrase, c'est de dire que l'équipe de France a un style. Ça, on l'a pas encore vu, donc.
Non, tu l'as pas vu. parce que des fois tu fermes les yeux.
Ah d'accord. Bah non, mais s'il y en a, je savais pas.
Non
ouais.
Mais tu vois,
ah non, mais si tu confirmes rien, sur le style, je suis ravi parce que.
Non mais rien que de prendre cette phrase dans la tête. Tu Deschamps écoute ça, tu prends une phrase comme ça dans la figure, t'es sélectionneur, faut aller dormir derrière quand même en disant t'as pas donné style alors que le mec ça fait 6 ans qu'il est en train de se battre pour donner un fond de jeu.
Exactement. Ah non, en l'occurrence il a dit qu'il avait un style.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pour ça, effectivement.
Mais lui, il se bat pour,
mais toi, tu l'as pas encore.
Moi, je crois pas qu'il se bat pour le style. Je pense que c'est le cadet de ses soucis, le style.
Messieurs, basculons sur Héros oubliés de la Coupe du Monde aux éditions Contre-Histoire. C'est pour ça que Thomas et non pas Thibaut Pitrel est avec nous aujourd'hui. Donc c'est un recueil de plusieurs histoires, d'héros oubliés de la Coupe du Monde. Alors, il n'y a pas que des portraits, hein. Il y a aussi des histoires à proprement parler, d'ailleurs, hein.
Ouais, il y a des histoires. Alors il y a des portraits effectivement de héros au singulier, et il y a aussi des portraits de héros au pluriel, c'est-à-dire des portraits de sélection en fait, des histoires de par exemple de la Corée du Nord 66, des États-Unis 1950, qui sont un peu des épopées quoi. Et c'est ce qu'on aime bien faire généralement dans SoFoot, c'est raconter des histoires qui vont au-delà du foot quoi, et qui vont au-delà du résultat final de la Coupe du Monde. Là, ça nous intéressait pas forcément.
C'est souvent le plus intéressant. Le foot,
c'est
les histoires. Quoi.
Pour moi aussi.
Le résultat, c'est pour les encyclopédistes.
Oui, voilà. Ah. Mais après, c'est intéressant. On a tous vibré devant les matchs de Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'une fois que.
Mais ce qu'on aime,
le résultat marqué.
La culture foot, c'est les histoires qui vont avec. Le résultat tout seul, on le lit et puis c'est tout. Mais ce qu'il y a, c'est quand derrière, après, on nous raconte, même quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde, qu'on sache toutes les histoires de comment ça s'est fait, tout ça. C'est ça qui est passionnant. Mmh. Et là, c'est ce qu'il y a dans ton bouquin, dans votre bouquin, parce que c'est un collectif, c'est toute la bande de SoFoot, c'est toutes ces histoires.
Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Daniel, le plus?
C'est un livre, tu le prends, et puis, tu peux commencer au début, aller à la fin, ouais. C'est plein d'histoires différentes, et c'est ça qui est génial. Alors moi, j'en ai relevé, quelques-unes, et, c'est pas dans l'ordre de mes préférés, mais il y en a une que je voulais qu'on évoque. Je la trouve extraordinaire. C'est celle du fameux Argentine-Pérou de 78.
L'opération Condor.
Moi, c'est la première Coupe du Monde que j'ai suivie. Même si je n'avais que 8 ans, il y a énormément de choses dans cette Coupe du Monde qui m'ont marqué. Évidemment, le premier but des Bleus dans la Coupe du Monde où j'étais persuadé que ça y est, on allait être champion du monde. Parce que quand tu marques à la 38e seconde, t'es forcément champion du monde tellement même dans la cour d'école, on n'arrivait pas à marquer au bout de 39 secondes, quoi.
Bon, toi, c'est normal. Après,
39 secondes, c'est rapide, hein,
même. Ouais,
Bah, j'ai cru que c'était un gars, quand le match a commencé, je dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'on est fort pour marquer aussi vite que ça? Bon. Je me souviens de plein de trucs, de l'Argentine, et toutes les papelitos, c'est vraiment très fort, la Coupe du Monde. Et il y a ce match-là. Alors. Tu veux que ce soit moi ou toi qui rappelle le contexte? Je rappelle le contexte de ce match au couteau, qui était très attendu, quoi.
Moi, pour le coup, je l'ai pas vécu, la Coupe du Monde 78, mais ce match-là, c'est une victoire 6-0, qui qualifie l'Argentine, alors que c'était pas vraiment,
Alors, il fallait qu'il gagne par 4 buts d'écart, le dernier match face au Pérou.
3 pour 3.
De 3, je crois.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas de demi-finale, il y avait une deuxième phase de poule.
Exactement.
Et ceux qui étaient dans cette phase de poule, en fait, les premiers se retrouvaient après, en finale. D'un côté, il y avait un groupe où t'avais l'Italie et les Pays-Bas, et c'est eux qui se sont joués leur sorte de mini-finale pour savoir qui allait en finale, et les Pays-Bas ont battu l'Italie, là. Et de l'autre côté, il y avait Argentine-Brésil. Je crois que dans l'Argentine-Brésil, il y a dû avoir match nul. Une sorte de 0-0 bien tendu, serré. Le Brésil avait mis victoire donc contre le Pérou et l'Argentine arrive dans le dernier match. Alors déjà, t'avais le match, tu le jouais après, donc tu savais ce qu'il fallait que tu fasses.
D'accord. C'est 4 buts d'écart.
En plus, bon, l'Argentine dans tout le process de la Coupe du Monde.
Bah, elle est très politisée cette Coupe du Monde. Hein. C'est l'Argentine de Videla.
À chaque fois, quand tu parles de coups de main et d'arbitrage domicile, il y avait quand même pas mal d'événements et tout. Et arrive ce match, tu dois gagner par 4 buts d'écart et joue le Pérou. Et alors là, ça devient affaire d'État, quoi.
Ouais, donc là c'est ça que raconte ce chapitre-là du livre. Et l'idée c'est qu'on n'a jamais vraiment exactement pu démêler ce qui s'était passé, mais que évidemment la dictature argentine a joué son rôle dans cette victoire.
Visite de Videla dans le vestiaire avant le match.
Ouais, il y a pas mal de thèses
avec le dictateur péruvien. Ils étaient tous les deux.
Il y a des petits coups de fil de Kissinger. Enfin, c'est ça qui est pas mal dans cette histoire, c'est qu'il y a vraiment un peu tous les
voilà,
personnages
arbitre
de l'époque.
Acheté, ou alors enfin les sélections du Pérou du direct, l'arbitre a été acheté, qui est Wurtz à l'époque, le français. Wurtz dit, mais attendez, posez-vous la bonne question.
Moi,
pourquoi
vois,
les
j'avais
argent...
complètement oublié que c'était Wurtz l'arbitre de ce match-là.
Et Wurtz dit, mais attendez les gars, posez-vous la bonne question. Pourquoi les Argentins jouent toujours le soir après les autres? Il dit pourquoi ils jouent toujours le soir après les autres? Parce qu'ils ont l'avantage finalement et ils savaient qu'ils devaient gagner par 4 buts d'écart.
Ils connaissaient tout le temps les résultats des autres.
Et au final, alors il y a cette fameuse histoire où on se demande si les joueurs n'ont pas été achetés et s'il n'y a pas eu une politisation avec la fameuse.
Parce que le mec dit, il y en a peut-être un ou deux seulement. Voilà. Parce qu'il y en a même un qui lui répond oui. Deux c'était trop, un seul ça suffit.
Voilà. Ah. Et après on se demande si c'est pas politisé avec la fameuse opération Condor et ces chefs d'État d'Amérique du Sud qui s'unissent pour éliminer les opposants politiques à d'autres pays. Donc en gros le président du Pérou aurait dit à Videla, écoute, on lâche le match, mais il y a 13 mecs que tu dois m'éliminer dans le pays là, 13 opposants politiques. Voilà, la fameuse opération Condor.
On devrait finir la phrase, c'est difficile d'être sélectionneur et dans certains pays c'est impossible.
Effectivement. Ouais.
Et alors il y a un truc, je sais pas si toi tu t'en souviens, mais si des gens qui nous écoutent peuvent nous aider, s'il y a encore des images. Donc, et ça, c'est évoqué dans le livre, c'est ce gardien péruvien qui, je crois, ses parents étaient argentins. Tout de suite, il y avait un doute sur lui. Je crois qu'il devait s'appeler Ramon Quiroga, un truc comme ça. En gros, c'est sur lui que les soupçons se sont portés.
Extraordinaire.
Et l'image, je m'en souviens, mais des fois, les souvenirs et tout, et j'ai jamais revu ce truc-là. Donc, si des gens peuvent retrouver et tout.
Ah, depuis l'âge de 8 ans,
c'est
que
chez Pradel.
Mais ce gardien,
il est là, Daniel.
À un moment, t'as l'impression d'avoir un guignol dans les buts. Il avait des gants super grands et à un moment il se met à sortir façon All Meta.
Il était en finale de Ligue des Champions le week-end dernier, je crois.
Oh, c'est pas cool pour Carius.
Carius, c'était de toute façon, ses parents sont espagnols. On l'a su hier.
Et ce Quiroga, le gardien péruvien, à un moment il sort, il va jusqu'au milieu de terrain, il essaye de dribbler, il fait un peu n'importe quoi. C'était très bizarre le comportement de ce gardien dans ce match-là et ils en ont pris 6. Alors que le Pérou n'était pas une équipe qui devait en prendre 6 quand même. Globalement. Alors après, les Argentins, ils te disent tous Passarella, Ardiles. Ouais, c'est pas la dictature qui a mis la frappe de je sais plus quel Hollandais sur la barre à la dernière minute en finale. Et c'est vrai que la finale, elle est clean, quoi. Ils gagnent 3-1. Il y a rien à dire sur cette finale, quoi. Donc bon.
Campes, il était là, Mario Campes.
Donc. Bah oui, bien sûr.
Mario Campes, Thomas, alors on va faire un petit bond dans le temps. Et cet article, c'est toi qui l'as écrit. Alors c'est la Bulgarie 94, parce que là, alors là.
Ça, c'est beau,
nous, alors ça nous concerne en tant que Français, parce qu'il y a ce fameux match au Parc des Princes. Mais tout est énorme. Alors c'est-à-dire, moi, si je devais faire un parallèle avec l'histoire de la Corée du Nord 66. En fait, c'est l'anti-Corée du Nord 66, quoi. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent en 94. Enfin, c'est le grand n'importe quoi, cette équipe, au final, en termes de gestion.
Oui, je pense qu'effectivement, ils étaient un peu plus libres que la Corée du Nord, que ce soit en 2010 ou en 66. La Bulgarie 94, en fait, c'est souvent quand on en parle avec les autres journalistes de SoFoot, on se dit que la Coupe du Monde 94, c'est un peu une des dernières Coupes du Monde avec de la liberté dans les équipes. Et effectivement, cette équipe de Bulgarie, c'est le symbole de ça, parce que c'est une équipe que personne n'attend, qui va en demi, alors que après les matchs, on les voit sortir avec leurs supporters en boîte à New York ou je sais pas où, boire des bières au bord de la piscine, fumer des clopes. Enfin, il y avait aucun problème à le faire à l'époque. Et voilà, en fait, c'est...
Ils étaient dans le groupe de l'Argentine,
la Grèce,
donc de Maradona, du Nigeria. Mais sauf que Maradona joue pas contre eux parce que c'est juste avant qu'il est suspendu.
Ouais.
Donc déjà, ils ont le bol de jouer l'Argentine au moment où l'Argentine vient de perdre Maradona et a eu donc cette crise avec l'histoire de dopage de Maradona. Ils ont le Nigeria.
Ouais. Et la Grèce.
Ah oui, trois équipes sont sorties de ce groupe. Il y avait trois équipes qui pouvaient sortir de à ce moment-là. Oui, parce que l'Italie était également sortie en tant que meilleur troisième. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, et donc cette Bulgarie, tu disais, ouais.
Et cette Bulgarie, bah voilà, c'est une équipe malgré le fait qu'elle ait éliminé la France et qu'elle ait privé la France de cette Coupe du Monde, c'est une équipe extraordinaire en termes de personnages, puisqu'ils avaient tous un ego un peu démesuré. Ouais. Le plus grand étant évidemment Stoichkov, dont les citations dans l'article sont chacune plus savoureuses l'une que l'autre.
Il y avait des sacrés joueurs dans cette équipe. Hein. Il y avait des c'était une très bonne équipe.
Lechkov, Balakov,
c'est un très bon joueur.
Kostadinov.
Ouais. et puis des gueules quoi.
L'attaquant Lubo Penef, c'était un neuf à l'ancienne, Lubo Penef, mais il pesait dans la surface.
Tu t'en souviens de cette Coupe du Monde?
C'est son père le sélectionneur.
Ah oui, Jérôme Penef. Moi je m'en souviens. Bah oui, moi je me souviens surtout du match France Bulgarie au Parc des Princes parce que j'étais dans les tribunes.
Ah, t'y étais?
On y était, moi j'étais. Et que j'ai vu le mon premier traumatisme.
On sait pas que ça va être une équipe qui peut faire quatrième à la Coupe du Monde et qui peut avoir une équipe aussi forte que ça.
Quand Thomas raconte un peu qu'il y avait cette liberté dans le groupe, les égos, je pense que quand ils sont arrivés, c'est pas je pense, c'est avec le recul, moi j'étais gamin, donc mais avec le recul, quand tu fais un exploit comme ça, c'est quasiment, c'est inespéré pour eux d'être qualifiés.
Mais la c'est France, lié en partie à ça, quoi.
Bah ouais, aussi. La France perd contre l'Israël avant.
Ouais, il y a eu un côté miraculé, ouais. Quoi.
C'est un miracle, et je pense que quand t'abordes le match comme ça, bah ça te donne
Danemark repêché en
c'est ça,
des trucs comme ça. T'arrives, t'as plus rien à perdre.
Et avant le quart de finale contre l'Allemagne, tu racontes, ils sont méga décontractés, ils vont à la piscine.
Bah, ils vont en boîte avec les supporters. Ils savent même pas qu'il y a une communauté bulgare aux États-Unis, les mecs.
Ouais, il la découvre à ce moment-là. Et puis bon, bah quand on tombe sur des Bulgares aux États-Unis, on va boire quelques coups avec eux, quoi. Donc c'est
et après ils battent l'Allemagne 2-1.
Ouais, ils battent l'Allemagne 2-1 et après, mais c'est après ce qu'on disait sur l'élimination de la France, c'est qu'au final, les je crois que les deux équipes qui sortent de la poule de la France, en fait, sont demi-finalistes, quoi. Donc c'est pas rien.
Tu te souviens, Kostadinov, Parc des Princes?
Non, mais arrête.
Kostadinov! Se faire du mal.
Comment vous pouvez mettre ça? Mais vous êtes vraiment des cons.
Je vois à Porto à l'époque.
Et l'autre, il est content de sa connerie, là, Jérôme Thomas, dans le truc. Oh, c'est un traumatisme pour nous. Et toi, tu rigoles, toi.
C'est drôle, avec le recul.
Ah, non, moi, j'ai été traumatisé pendant 35 ans, mon gars. Qu'est-ce que je te dise,
Non, on s'en fout. Là, tu peux pas.
Et sur ce quart de finale contre l'Allemagne, let's go. Il
y a un coup franc, je crois, de
Stechkov. Il me semble qu'il y a un coup franc.
Il y a une tête, je crois, de...
Non, c'est Letchkov de la tête plongeante. Et Letchkov après, est recruté par l'OM où il va faire un bide monumental.
Vrai,
il va faire un bide monumental. Ah, Jérôme, tu t'en souviens de Letchkov à l'OM? Qui après cette Coupe du Monde est recruté par l'OM et fait un bide monumental.
Bah, exactement.
Wow. Allez, c'est pas un peu plus tard qu'il va à l'OM.
C'est un peu plus tard qu'il va à l'OM. C'est un peu plus tard.
C'est 98, non?
Ah, si tard que ça, je crois pas que ce soit si tard que ça. C'est d'abord à ce moment-là, l'OM est en 94, ils descendent en Ligue 2. Donc c'est quand ils vont remonter qu'ils le prennent, mais
96-97.
Voilà. C'est ça, c'est. Donc c'est quand ils remontent, à 96. Ils le prennent, il fait un bide total.
Dans quelques instants, Thomas Pitrel, tu vas nous raconter l'histoire du Brésilien. Mais le Français, José Touré, ça c'est une histoire qui tient à cœur également à Daniel, mais pas qu'à Daniel, ça tient à cœur à tout le monde. José Touré, ça parle à tout le monde. Ouais. Voilà, l'homme qui aurait dû être le héros de la Coupe du Monde 86, mais qui n'a pas été à cause de ce foutu genou. A tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, le super football show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Daniel Riolo, Jérôme Roten, Patrice Haddad, notre ami de l'After, président du Red Star, de retour en Ligue 2 la saison prochaine, est avec nous, et Thomas Pitrel qui est venu avec Héros oubliés de la Coupe du Monde aux éditions Contre Histoire. Un bien joli livre, Thomas. Et on va évoquer l'histoire de José Touré, alors qui devait donc être le héros de la Coupe du Monde 86 avec l'équipe de France, le Brésilien, comme on l'appelait. Et il y a eu cette foutue blessure au genou qui l'a empêché d'être le héros de ce mondial, justement.
Bah ouais, cette blessure au genou qui en plus, enfin pour lui est vraiment resté un traumatisme. C'est quelque chose dont il s'est jamais vraiment relevé dans sa carrière. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait le raconter dans ce livre, parce que ça peut paraître paradoxal étant donné qu'il a jamais disputé de Coupe du Monde, mais le fait justement qu'il l'ait pas disputé nous paraissait nous quasiment aussi important que de raconter l'histoire d'un joueur qui l'aurait joué. Et donc effectivement José Touré qui explose aux yeux du grand public en 83 et qui se blesse après juste avant la Coupe du Monde 86, qui aurait dû être un peu son couronnement et qui aurait, bon après on peut pas rejouer la Coupe du Monde, mais qui aurait peut-être pu permettre à la France de faire encore mieux que ce qu'elle a fait, et qui finalement signe un peu la fin pour José Touré qui va
il va payer total,
quelques péripéties
après il joue quand même, il revient de sa longue blessure, il joue à Bordeaux,
il devient d'ailleurs le joueur le mieux payé de D1 à l'époque,
exactement, à Bordeaux, oui, effectivement il a ce gros contrat, il joue dans l'équipe de Bordeaux qui fait la C1 contre le PSG,
il est champion d'ailleurs, je crois,
notamment.
Avec
mais ça, moi je me souviens, c'était terrible parce que au moment de la Coupe du Monde 86, l'équipe de France se demande qui va être son neuf. Rocheteau est peut-être un petit peu sur la fin, Papin débarque à peine, donc on compte pas vraiment sur lui, pas du tout. Stopira va s'avérer être le nouveau neuf, et c'est lui qui va beaucoup jouer. Mais avant, quelques mois encore avant qu'il se blesse, José Touré, c'est le mec, quoi. Enfin, il va y avoir un mois, parce que tout le monde disait qu'avec ce milieu de terrain fantastique qu'avaient les Bleus, ça manquait d'un neuf qui allait mettre les buts, et avec ça, t'allais la gagner la Coupe du Monde. Et José Touré est sûr. Il y a ce fameux match qui doit être, je sais pas comment ils avaient appelé cette compétition, cette sorte de truc intercontinental où la France joue au parc, où José Touré est fantastique contre l'Argentine. Touré
avant la Coupe du Monde, ça.
Ouais, un an avant. Après, il est de la campagne, hein, le match contre la Yougoslavie, là, le 2-0, il joue, c'est l'avant-centre des Bleus, quoi. Mmh. C'est 6 mois avant, c'est le gars qui doit être le numéro 9. Et il était tellement fort, si c'est bon, la Coupe du Monde, tu vas avec lui, t'as Platini et les autres, mais t'as en plus un vrai 9. Et résultat, il s'est cramé. Je pense que même s'il a joué après, je pense qu'il s'est jamais réellement remis de cette blessure-là, quoi. Dans la tête et tout. Ça a été toute sa vie une souffrance, moi, je pense. D'avoir raté un peu le train des Bleus, quoi.
Ton souvenir de José Touré, Patrice?
Un joueur, moi j'adore ce genre de caractère et de personnalité. C'est un joueur atypique avec une carrière atypique, quoi. Ça, pour moi, ce sont des artistes, c'est des créatifs. Et donc ça va avec le haut et le bas d'un créatif, quoi. Il sort des grandes œuvres et il s'isole par moments. Tu peux raconter des histoires autour d'eux au niveau de leur aventure. C'est romanesque, voilà. José Touré, c'est romanesque.
Nous, ce qui nous intéressait en plus là, c'était à la base l'idée qu'on avait, c'était de raconter ce que José Touré a fait pendant la Coupe du Monde. En fait, c'était un peu ça le départ de l'article et du chapitre dans le livre. Et effectivement, en fait, ne serait-ce que si on s'était arrêté là et qu'on avait raconté ce qu'il faisait pendant la Coupe du Monde, c'était extraordinaire, quoi. Il sortait avec Yannick Noah, il allait au festival de jazz de Montreux, il rencontrait des artistes.
Il faisait partie du showbiz, ouais, à l'époque, hein. Ouais,
c'est,
ouais.
C'était
une star, ouais.
Il sortait déjà Yannick Noah à l'époque, là.
Ouais, en fait, il sortait avec déjà pour Noah,
je pensais qu'il était.
Et au départ, ce mec à Nantes, c'était un joker dans les aventures nantaises début des années 80.
C'était Vaïd qui était devant lui.
C'était le joker. Et chaque fois qu'il rentrait, putain, il était performant et tout. Après, évidemment, il éclate dans la finale 83, même si Nantes perd contre le PSG. Il y a ce but extraordinaire. Et après, c'est le gars qu'on attend comme le numéro 9 des Bleus, quoi. Et ce qui sera jamais. Il est quand même champion olympique en 84, là, à Los Angeles. Là.
Oui.
Il est de cette bande-là.
Il joue pas la finale.
Non, il joue pas la finale, mais il est de cette bande-là quand même. Mais bon, les champions olympiques, c'est important, mais c'est pas comme Léa, quoi, ça a rien à voir.
Alors, moi, je t'avoue que
Patrice Garand est champion olympique aussi, je crois.
Hein?
Albert Rust aussi.
Patrice Garand, Daniel Xverev.
Conservation Jérôme Thomas.
Alors,
moi, je t'avoue, Thomas, que
José Touré va bien, puisque j'ai des nouvelles à l'instant qui arrivent toutes fraîches. Il habite en Vendée, il prépare des docs sur la Coupe du Monde.
Bah, c'est là-bas qu'il était parti d'ailleurs, se réfugier entre guillemets d'ailleurs après. Ouais.
Et c'est mon ami Jacques Vendroux qui me dit ça.
Ah, bah, parfait. Voilà. Alors, moi, je t'avoue, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est le Brésil 70. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'histoires dans ce livre qui se réfèrent à ce Brésil 70.
Merci, Jacques.
Merci, ouais.
Oui, bah,
merci, Jérôme.
T'as jamais été aux variétés, toi, Jérôme? T'as pas eu le niveau?
J'ai eu le... Non, bah... le niveau, t'imagines le plein, les stades sont pleins.
Tu veux que ça arrange bien sur le clash? Je peux en parler à Jacques, là, qui te recrute.
Jacques, t'en fais pas. Plusieurs fois, il sait pourquoi j'y vais pas.
Ah bon?
Voilà.
Pourquoi?
Bah, il le sait.
Il le sait?
Bah ouais. Demande-lui, tiens, tu l'as eu. Demande-lui pourquoi Jérôme participe jamais.
Bah écoute, le texto va
être envoyé tout de suite.
Alors, je te disais du coup, Thomas, ce fameux Brésil 70. Alors, il y a l'histoire de Dada Maravilla, alors qui est une histoire merveilleuse justement, puisque c'est ce que ça veut dire Maravilla.
Je lirai la réponse en intégrale, même si.
Vas-y. Même si. Il y a l'histoire également de Saldanha, qui est le sélectionneur qui se fait virer au cours de ça. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce Brésil 70 qui remportera d'ailleurs la Coupe du Monde. Hein.
Ouais, bah ça fait partie des équipes mythiques et encore une fois, ça fait aussi partie du principe de ce livre de raconter les histoires des mecs dont on parle pas, parce que Saldanha, c'est le coach qui se fait virer en fait quelques mois avant, qui remet le Brésil sur pied, parce que enfin quand on regarde le palmarès de la Coupe du Monde, on se dit bah voilà, ils ont gagné en 58, 62, 70, c'était une hégémonie, mais en fait en 66, c'était quand même un peu effondré, ils ont eu un peu de mal à revenir. Ils mettent Saldanha qui est un mec complètement fou,
qui est communiste en plus, qui à l'époque est pas très bien vu au Brésil,
ouais,
sous les dictatures,
qui est pas très bien vu, mais qui a ce côté qui est quand même populaire, quoi, et qui est apprécié de certaines personnes au sein de la dictature, donc il est quand même mis à ce poste-là, mais c'est quelqu'un qui est hyper autoritaire, qui aime bien les armes à feu.
Il se balade toujours avec un col 32. D'ailleurs, ouais. Vous expliquez dans le livre, c'est assez marrant d'ailleurs. Oui, il est complètement barré, le mec. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et après, bah effectivement, Dada Maravilla qui est un autre de ces personnages qui a pas marqué l'histoire de la Coupe du Monde sportivement, hein, mais qui a une aura qui va plus loin.
Alors, qui est un mec qui a marqué près de 700 buts en carrière et qui a commencé le foot à 19 ans. Alors ouais. C'est une histoire assez dingue.
Bon, après le nombre de buts marqués par les attaquants brésiliens,
il y avait des championnats d'État, etc.
C'est toujours un peu dur de calculer. Hein. C'est comme tous ceux qui ont dépassé 1000 buts, c'est souvent remis en cause. Et voilà, j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs que Pelé rappelait son année 59, je crois, où il disait qu'il avait marqué 123 buts dans l'année. Bon voilà. Après,
enfin, Pelé, à un moment, il comptait les buts qu'il mettait dans le jardin. Et
ouais,
tout.
Ouais,
bon,
123, j'en avais en double.
Il y a un barbecue, fait un foot à côté. Il les a comptés aussi ces buts-là.
Voilà. Si dans 10 ans, Daniel,
c'est comme Jérôme avec les passes décisives. Non, moi, il joue avec ses enfants, il compte les passes décisives.
J'allais te dire, si dans 15 ans, je commence à dire j'ai mis 40 passes décisives dans une année, reprends-moi, tu mets une claque vidéo. Ça va pas. T'en as mis la moitié, c'est vrai.
Bon, j'ai eu la réponse du patron. Il me dit, je lui dis donc pourquoi Jérôme n'est pas au Variété. Il me dit très franchement, je ne sais pas, non. Il peut le dire, j'assume.
D'accord.
Il ne le sait pas.
Alors dis-le. Non, c'est parce que j'ai pas envie de croiser certains joueurs.
Ah, qui ils sont?
Ouais, voilà.
Alors, maintenant on est obligé de se dire qui, quoi.
Non, non, c'est qui. Non, mais il faut qu'on fasse notre taf. Quand tu fais un match comme ça pour n'importe quelle manifestation, en général,
c'est des œuvres caritatives souvent.
Et oui, donc c'est dans la joie, la bonne humeur et tout. Si t'arrives dans le vestiaire et que t'en as certains, t'as pas envie de leur dire bonjour parce que voilà, c'est pas. Je préfère me retirer moi plutôt que de lui demander à lui, à Jacques ou à d'autres qui organisent. Bah non, écoute, prends pas celui-là parce que moi j'ai envie de venir, voilà, tout simplement.
Ça te donne une idée de livre là ou pas, Thomas, là, sur Jérôme Rotten là?
Ouais, je pense que
tu tiens un truc là, je crois.
Il y a pas mal d'histoires.
Il ouais, y a des, y a des choses à dire. Ouais.
France 98, il y a rien dedans.
Je réfléchis.
Bah non, parce qu'on a oublié personne de 98.
Bah, voilà, c'est un peu
on connaît
présent.
Tout. Hein, de ce
non, sur 98, par contre, il y a un des
histoires. T'en as quelques-uns qui l'ont oublié.
Il y a une des histoires que j'aime bien sur 98 dans le bouquin, c'est celle d'Egil Olsen, qui est le sélectionneur de la Norvège, qui est donc à peu près l'équipe la plus chiante de l'histoire, mais qui a vraiment totalement théorisé.
T'as complètement oublié Rekdal.
Ah non, mais bizarrement, j'adorais la Norvège à l'époque parce que je trouvais qu'il y avait des noms extraordinaires de joueurs, donc je sais pas pourquoi ça me parlait. Mais bon, c'est forcé de constater que c'était pas non plus l'équipe la plus attrayante, mais ce qui est marrant, c'est qu'il avait totalement théorisé, quoi.
Rekdal, j'aimais bien.
C'était totalement volontaire.
Mais c'est vrai que c'est l'anti-football, hein, cette équipe de Norvège en 98. Et il assume complètement. Ouais.
Mais je crois qu'ils ont pris 0,60 buts par match entre 90 et 98. Quoi.
Ah, le huitième de finale contre l'Italie. L'Italie rame dans ce match, ils mettent le but, après c'est terminé. Ouais. Il n'y a plus de match, c'est fini. Ils mettent des buts dans la première
mi-temps, c'est terminé. En voilà un mec que tu devrais rencontrer qui assume pleinement le fait que le beau jeu, il s'en tape complètement.
Et pourquoi tu veux que je rencontre?
Bah, parce que toi, ça t'énerve, je le sais.
Et pourquoi tu veux que j'aille le voir?
Bah, parce que pour lui expliquer, lui dire, écoute, gars, c'est pas comme ça qu'on fait, pourquoi tu penses comme ça?
Bah, s'il a envie de penser comme ça, que tu veux que ça me fasse, moi.
Bah, je sais pas, ça t'énerve, moi.
Pas l'apport dans le football de la Norvège, va pas.
Bah, ils ont jamais fait aussi bien qu'à cette période, avec peu de moyens, et peu de vivier, finalement.
Tu sais que c'est dans ce match-là qu'on s'était aperçu à quel point la vidéo était une foutaise totale.
Oui.
Hein, tu te souviens de cet épisode-là?
Quand tu retiens le mec par le maillot, c'est de là
que
t'es devenu anti-vidéo.
35 caméras plus loin et 3 jours après, on a vu un truc que personne n'avait vu.
Je me demandais, tu sais, il y a bien un traumatisme quand tu deviens comme ça, en anti-vidéo. Bah, voilà.
Non, ça vient pas de là. Si j'ai eu le temps de réfléchir entre temps.
Je pensais, non, mais.
Mais réfléchir, c'est important parfois.
C'est bien, Daniel. Très, très bien.
Mais toi aussi, tu contrôles la vidéo.
Mais pas du tout.
En 5 minutes, je te retourne.
Pas du tout.
En 5 minutes. Un verre après
j'ai
tennis,
vu les arbitres, moi j'ai parlé avec eux, ils m'ont convaincu.
Ah ouais.
T'as un avis sur la vidéo, toi, Patrice? Tiens, petite digression là.
Non, on s'aperçoit que quand on lit toutes ces histoires, c'est ça qui fait le football, quoi, en fait. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler, qui font le football. La vidéo apporte du contrôle et un contrôle sur tout ce qui peut faire parler autour du football.
Exactement.
C'est ça qui est un peu dommage. En même temps, tu te dis qu'il y a tellement d'intérêt que est-ce qu'il faut pas que ça intervienne. Bon, voilà.
Ah, mais je préfère les belles histoires aux intérêts.
Ouais, tu as raison.
Si demain, sur un but litigieux, t'arrives pas à monter en Ligue 1 et que c'est la vidéo qui te sauve.
Non, c'est vrai que la France n'y va pas contre l'Irlande.
Exactement.
Mais tiens,
s'ils sont pour la vidéo aujourd'hui.
Ouais. Puisqu'on évoque la vidéo, il y a pas mal d'histoires sur les arbitres aussi, hein, Thomas.
Ouais, bah il y a le notamment l'arbitre qui n'a pas vu la main de Maradona.
Extraordinaire.
Il est mort lui maintenant, c'est ça?
Non.
Ah, je pensais qu'il était mort.
En Angleterre, là, la main.
Ali Benacer.
Ouais.
Ah bon? Mais alors j'ai une connerie là.
Mais du côté de Nice, toujours. Enfin, en tout cas,
on l'a rencontré.
Ouais, tout va bien. Non, mais tout va bien. Il me semblait
il y a quelques années. Donc après, c'est pas impossible parce que des fois, on est un peu maudit.
quand tu vas rencontrer un homme, tant mieux, surtout, que je ne lui porte pas la poisse, surtout,
oh là là, oh là là. Le mec, il nous dit ça une fois qu'il est en plateau.
Ce qui est formidable, c'est que finalement, il s'était rencontré finalement avec Maradona, je crois. Il y avait une rencontre, il me semble, non?
Ouais, mais alors lui, l'assumait en tout cas quand on l'a vu assez bien, quoi. Enfin, il disait, c'est plutôt, il remet un peu la faute sur ses assistants. Qui lui valide le but.
Bon, donc il assume, moyen, quoi.
Voilà, il trouvait ça bien, le geste de Maradona, il trouvait sa classe, il a laissé. Ah, c'est bien.
Peut-être qu'il considère toujours qu'il n'y a pas main, d'ailleurs.
Peut-être.
Avec la vidéo.
Peut-être. Regarde, on n'a jamais su s'il y avait pénalty ou non sur Nilmar, hein. Les Lyonnais attendent toujours la réponse.
Attention. Ça a commenté.
Mais aucune conversation n'est jamais terminée. Tu vois, ça revient toujours.
Mais d'ailleurs, il a jamais, c'est raconté également, il a jamais pardonné à Thierry Roland les propos qu'il avait tenus d'ailleurs ce jour-là. Et c'est Thierry Roland avait demandé à le revoir et jamais il a
voulu. Ah, si, il me semble qu'il s'était réconcilié.
Ah, bah écoute, il m'a invité après un match du variété, justement, sans Jérôme Roten, d'ailleurs, c'est écrit. Mais je ne suis pas allé. Même si dans mon pays, il y a le désert, il y a la mer et tout ça, on juge quelqu'un sur sa performance.
Bien sûr.
Pas sur sa nationalité. C'est ce qui m'a choqué, il m'a insulté, moi et mon pays. Voilà.
C'est vrai que les propos étaient plus que maladroits.
Il n'y a pas autre chose qu'un arbitre tunisien pour ce match.
C'était pas, il n'y a pas autre chose, je crois.
Ils ont pas trouvé autre chose.
C'est autre chose ou il n'y a pas mieux? Il n'y a pas mieux qu'un arbitre tunisien pour un match de cette importance.
Il n'y a pas, laisse un message à Jean-Michel, il doit savoir, lui.
Mais je crois que Jacques nous écoute. Thierry Roland était son grand ami. Il nous donne des infos.
Exactement.
Mais il me semblait, moi, qu'il s'était revu et que cette histoire avait été.
Vas-y, Jacques, dépêche-toi d'envoyer le texto parce que l'émission a bientôt fini. Mais vieillit, Jacques aussi. Il faut qu'il prenne le temps d'envoyer. 20 minutes, je suis pas sûr qu'il y arrive.
Et on rappelle donc héros oublié de la Coupe du Monde aux éditions Contre-Histoire, voilà. Thomas, et tu restes avec nous pour le quiz?
Ouais.
Les petites
infos
du
jour également.
Ah, il y a le quiz.
Le thème, il est.
Tu restes avec nous, on revient dans.
Hein? Bravo.
Le thème, c'est la Coupe du Monde d'ailleurs. On a 15 jours du début de la Coupe du Monde, voilà. À tout de suite. 32-16 pour vous inscrire au quiz là. Choisir votre équipe, à tout de suite.
RMC, le Super Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jérôme Roten, Daniel Riolo, Patrice Haddad, président du Red Star, et Thomas Pitrel qui est avec nous, héros oublié de la Coupe du Monde aux éditions Contre-Histoire. Très joli livre, voilà, avec des belles histoires à l'intérieur. Ouais. C'est à ça que ça sert aussi un livre. Sinon, ça sert à rien, ça n'a pas des belles histoires à l'intérieur, on est d'accord?
C'est pas faux, c'est pas faux.
Et il y a l'histoire d'Ali Benasseur, donc le fameux arbitre de la main de Dieu. Alors qu'il n'y aurait pas de réconciliation avec Thierry Roland, Daniel Riolo a des informations.
Non, en fait, j'ai confondu les réconciliations. Thierry Roland s'est réconcilié avec Monsieur Foot.
Ah, parce que
l'arbitre
est un salaud.
De la Bulgarie, vous êtes un salaud. D'accord. C'est avec lui qu'il y avait eu réconciliation. Sinon, il me dit par rapport à la durée d'envoi d'un texto, Jacques me dit « Je vais très bien ». Et Jérôme me fait marrer. Quand un petit message perso pour toi, il dit que tu as le même nœud de pape que Orlando, le frère de Dalida.
Ah, c'est sympa, tiens. Ma mère adorait Dalida. Donc, pourquoi pas. Ah ouais, sous couleur du Red Star.
Ouais.
Bah, tout le monde aimait Dalida, non?
Tout le monde, je sais pas, ta mère elle aime Dalida.
Ouais, alors on aime Dalida, c'est vrai.
Pourquoi tu juges les goûts de ma mère? Enfin, mais qu'est-ce que t'as dit contre ma mère, là?
Non, mais en l'occurrence, c'était plus Orlando dont on parlait, mais bon.
Voilà, ouais, déjà. Ouais.
Et les goûts vestimentaires d'Orlando.
Quelques petites infos du jour, les gars. Le Pérou, qui sera l'adversaire de la France le 21 juin prochain en phase finale de Coupe du Monde, a battu l'Écosse la nuit dernière 2-0.
Oula,
en match amical.
Ouais,
a marqué le premier but sur le penalty et c'est Farfán qui a marqué le deuxième but des Péruviens. Farfán qui devient le troisième meilleur buteur de l'histoire du Pérou derrière Guerrero. Guerrero suspendu pour dopage, qui est toujours en Suisse où il attend le verdict du tribunal fédéral suisse. Vous savez que la FIFA
ils
a pas tranché
au dernier moment, non?
Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est le grand héros.
Un truc que le Pérou, on sait pas encore ce qui se passera dans le match, aura quoi qu'il en soit.
Ils ont tapé l'Islande et la Croatie.
De mieux que nous, c'est le maillot.
Ah, de toute façon, il est merveilleux ce maillot.
C'est pour ça que j'ai dit
River,
ça.
Son river là. Putain, ouais. Merveilleux. Ah, oh, merci. Regarde, cette photo est magnifique. N'Golo Kanté, Rami et Mendy étaient aujourd'hui en conférence de presse à Clairefontaine, interrogés sur ce que Marcelo Bielsa, qui l'a dirigé à l'OM, a pu lui apporter. Le latéral de City, Benjamin Mendy, s'est dit marqué par le technicien argentin. Ça, c'est un moment after, spécial dédicace à Daniel Riolo, bien sûr.
Ah bah oui, là, c'est bon.
C'est un coach qui est extraordinaire pour moi. Certaines personnes disent qu'il a pas beaucoup de titres, donc ça ne l'est pas. Moi, je sais qu'il m'a beaucoup apporté. On a eu de nombreuses discussions, même avant mon transfert. Et oui, c'est quelqu'un qui a été très important.
Voilà.
Rien à ajouter.
L'avenir de Mario Balotelli, qui a marqué avec l'Italie cette semaine,
quelque chose qui va dans ton sens,
est toujours incertain. Adil Rami, qui a profité de cette conf pour lancer un appel à l'attaquant italien pour qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille. Regardez.
Le message là, il me regarde de suite et je lui envoie un message. Bastardo, dai, vieni con noi. Che non, andiamo a ganare, a vincere. Insieme. Vous n'avez pas compris, je sais.
Il est fort, oh, lui, franchement. Bon. Franchement, il est bon, ce
mec. Il y a eu des bons moments en conf de presse avec lui cet après-midi. Lui rigolo. Et Mendy, c'était pas mal.
Ouais. Non, franchement.
Il est bien sur l'italien ou pas?
Bah, il a mélangé un peu avec l'espagnol, ouais. Mais par petits bouts, il a réussi à se remettre dedans. Voilà.
Alors vous savez qu'hier le TFC avait publié un communiqué de presse dans le signé du président Sadran. On vous expliquait qu'il y aurait des changements majeurs à venir dans les prochaines semaines. Ils ont dit aussi qu'ils allaient s'inspirer sur les années milieu des années 2000. Allez, et bien aujourd'hui, l'inspiration est tombée puisqu'Alain Casanova est de retour au TFC. Il va succéder à Michael Debève la saison prochaine.
Et il va donc Casanova à Toulouse, ça c'est fantastique. Ça.
Il était entraîneur de 2008 à 2015.
Extraordinaire.
C'est-à-dire ?
Bah rien, non, je sais même pas quoi dire en fait.
Ah c'est Casanova.
Je trouve ça formidable.
Ouais, genre, ouais.
Formidable.
Voilà, info balancée par l'équipe vérifiée par RMC.
C'est, ouais, bah, c'est pareil. En fait, je sais pas comment dire. Je l'ai lu trois fois et pourtant j'étais là, je disais, non, mais j'ai du mal, j'ai pas bien vu. Au demeurant, homme très sympathique et absolument adorable, mais là je comprends pas ça.
C'est pas courant de reprendre un ancien coach quand même, Patrice.
Nantes l'avait pas fait, non? Avec qui?
Avec Derzakarian.
Et toi, tu l'as jamais fait? T'as fait 10 entraîneurs en 10 ans, j'ai compté.
Ouais, à peu près.
Bon, c'est bon.
Ah, ça, ouais, je vite un peu quand même.
Ouais. Non, j'ai jamais pensé reprendre. J'ai eu quelques regrets.
Avec qui, vas-y?
Rui Almeida est un très très bon coach.
Ah ouais, je pense que c'est exprès pour lui.
Merci.
Non, mais Rui Almeida est un bon coach. Beurre, je pense qu'on aurait pu faire une route un peu plus longue. Voilà. Mais tu sais, quand on prend un coach, on a toujours l'intention qu'il dure. C'est ça la réalité. Après, quand ça, tu vois, c'est pour ça que
comme avec une femme. Hein.
Ouais, j'étais voilà, exactement.
Sûr dire ça. J'en étais sûr.
Mais quand il fait 7 ans avec lui, il a pu comparer, il va le rechercher. Ça veut dire quelque chose quand même, moi, je pense. C'est déjà du courage de le reprendre.
Ouais. Ok, merci Daniel.
Les supporters, ils sont contents ou pas?
La DNCG attend avant de délibérer sur le LOSC hier. Le LOSC qui est repassé devant la DNCG. Alors Gérard Lopez apporterait 150 millions d'euros pour renflouer les caisses. L'organe de gestion du foot français a publié un communiqué sur le site de la Ligue et sur la situation des docks qui est, je cite, en sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. Interview de Steve Mandanda dans France Football. Alors le gardien de l'OM et de l'équipe de France qui bien se dit vexé d'avoir perdu le brassard de capitaine à l'OM qui m'attend sur le bras de Payet. Je cite Steve Mandanda, je suis un leader naturel à l'OM, mais le fait de ne pas récupérer le brassard m'a affecté. Ça m'a même un peu blessé. Le coach a ses raisons, je les entends. C'est lui qui prend les décisions, mais ça m'a touché. J'ai porté le brassard pendant 6 ans. Je pensais le récupérer. J'ai été vexé, a déclaré Steve Mandanda.
Alors là, je suis pareil, bouche bée. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que pourquoi tu dis ça comme ça à la fin et explique ça sur le moment, à la fin de la saison, alors que ça s'est bien déroulé.
Peut-être qu'il voulait pas polluer la saison, justement.
Bah, excuse-moi, mais là, tu vas polluer la saison d'après, parce qu'il va y rester, Mandanda, et Payet, il va y rester aussi. Donc, quoi? Payet va partir. D'accord. Bon. Mais dans tous les cas, il est parti de Marseille. C'est lui qui a décidé. Moi, je l'aime bien. Hein. Je trouve que c'est un excellent gardien. Ça s'est mal passé en Angleterre. Il est revenu à Marseille. Heureusement qu'il y avait Marseille pour le reprendre, pour être dans un. Parce que les gardiens, c'est pas facile comme ça de récupérer des places quand tu joues pas. Hein. Il y en a qui s'embourbent malheureusement. C'est comme ça. Et tu reviens dans une équipe qui a où il s'est passé des choses aussi. Donc mets-toi à la place de l'entraîneur, ça me paraît logique. Il est leader naturel, mais pas avec le brassard sur le bras, quoi. Je comprends pas qu'il ait pas le recul suffisant pour pas sortir une déclaration comme ça qui est inutile.
Info qu'on est allé piocher dans les pages roses de la Gazzetta dello Sport. Le Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, qui impose des mesures strictes pour ses joueurs lors de la Coupe du Monde. Pas de compagne lors des rassemblements. Pas de relations sexuelles. Il veut pas de ça pendant la voilà, c'est un peu à l'ancienne, hein, pour Löw. Il entend couper les contacts avec les proches avant les matchs. Interdiction des réseaux sociaux également.
Ah ouais, quand même.
Ah non, il est rigueur. Voilà.
Ah, on voit Podolski est parti. Non, c'est quand même. Ouais,
arrête, parce que t'as vu.
Sachez que la Russie, pays haut du mondial, s'est inclinée 1-0 face à l'Autriche en match de préparation. Une défaite de plus, hein, pour les Russes. Et tiens, Mediapro, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, alors qu'il a confirmé qu'ils allaient lancer une chaîne spécialisée sur la Ligue 1. Donc, visiblement, ils vont pas revendre une partie de leurs droits, Mediapro. Allez, on passe au quiz, messieurs. Le moment tant attendu. Cédric et Samy sont avec nous. Salut, les gars.
Salut. Ça va?
Alors tiens, Samy, tu veux être avec qui? Avec Patrice et Jérôme?
Non, ou pas, avec, pas avec moi, non, surtout
avec Daniel
pas.
Et Thomas.
Je suis très, très bon.
J'aurais dit Daniel.
Ouais, c'est bien.
Bon, Samy avec Daniel. Bon, bah, Cédric, t'es avec Patrice et Jérôme.
Ouais, ouais, t'as vu, t'as le coéquipier que t'as, là.
Alors, messieurs.
Toi, tu t'es collé.
Je vous pose, alors, vous savez quoi? Cédric, Samy, vous avez pas le droit de participer aux premières parce que sinon, on peut aller sur Internet.
D'accord. Ok.
Qui est avec Cédric? C'est vous.
On y va, Cédric.
Vous avez le droit d'aider sur une réponse, les gars, seulement. Je vous propose une question qui concerne la Coupe du Monde 2018 en Russie. Nous jouons sous forme d'enchères. L'auditeur n'a le droit de vous donner donc qu'une seule réponse pour vous aider. Première question. À l'image de la France, combien de pays ayant un drapeau qui contient du bleu, du blanc et du rouge pouvez-vous me citer, sachant qu'il y en a 10 au total parmi les participants de la Coupe du Monde? Combien de pays dont le drapeau contient du bleu, blanc, rouge pouvez-vous me citer?
Attends, c'est à qui? C'est à eux de dire d'abord?
Bah, vous dites, allez-y, comptez, les gars. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Rapido, si on a 10 au total.
Il faut un temps de réflexion, ouais, là.
Première enchère, Daniel et Thomas.
Bah, un.
Pour l'instant. Oui, vous pouvez citer plus d'un pays ou pas,
Moi, le
rouge, blanc, bleu à l'envers.
Deux à ma droite.
T'en as deux?
Deux à ma droite.
Deux aussi, nous.
Deux à ma gauche.
Ah non, nous on l'a dit avant.
Ouais, mais faut dire trois, les mecs.
Voilà.
Tu surenchéris ou pas? Trois? Trois, Daniel et Thomas? Trois pour Daniel et Thomas.
Trois aussi, nous.
Bah non, faut dire quatre, du coup. C'est quatre ou c'est pas? Ou vous les laissez? Si ils perdent, c'est pour vous le
prendre. Quatre, quatre.
Attends, non, mais attends, c'est à nous de dire.
Bah, ah, pardon. Il y en a 10, tu dis?
Il y en a 10 au total.
Nous, on est à 5.
Toi, t'es à 5 là?
Je pense qu'ils vont y aller.
Non, non,
mais c'est lâche. C'est du poker. 5,
je te la lâche, vas-y, c'est parti. 5, je te la lâche, envoie les 5. Envoie les 5, je te la lâche.
On a vu. Vous arrêtez.
Ah, attends, ils ont fait.
Je suis d'accord. Ok, Thomas et Daniel, allez-y, 5 pays.
Non, on en a 4, parce qu'on a arrêté à 4.
5 drapeaux de pays contenant du bleu, blanc, rouge qui vont participer à la prochaine Coupe du Monde. Patrice et Jérôme.
France.
Non, France, ça compte pas, c'est en
Cédric, t'as le droit d'en donner un.
Mais c'est la France, quoi.
On a dit à part la France, non?
À part la France.
Non, on a pas dit à part la France.
Bah oui, évidemment.
Ah, moi, je l'avais compté dedans.
C'est le seul qu'on est.
Essaye de me se noyer.
Russie.
Hein? Russie, c'est bon.
C'est bon. Après.
Vas-y.
C'est qui, ça?
Allez, les gars.
Patrice, t'en as pas? Cédric, tu peux en donner un, si tu veux.
Je le donne tout de suite, mais après c'est fini.
Bah, tu peux en donner un, sans faire des sans froid déjà. Vas-y.
Vas-y. Le Panama.
Ouais, c'est bon.
Ouais, le Panama. Ouais, Panama.
Bravo.
Ça, c'est sûr.
Paraguay, on avait dit.
Non, mais c'est bon, ils ont pas le droit d'en donner
plus. Perdu, Paraguay.
Je crois que vous avez perdu, les mecs. Hein. Non, Paraguay, ce serait bien s'ils étaient à la Coupe du Monde.
Vous auriez pu dire le Portugal, l'Australie, la Croatie, l'Islande, le Costa Rica, la Serbie, le Mexique, la Corée du Sud. Un point. Un point pour vous.
On avait Australie, Serbie, Croatie.
Il y a du bleu rouge dans les pays.
Est-ce que c'est Angleterre, c'est pas Grande-Bretagne?
Ah non, c'est Angleterre.
D'accord.
On continue toujours sous forme d'enchères, messieurs. Combien de villes accueillant les matchs de la Coupe du Monde en Russie pouvez-vous me citer? Il y en a 11 au total. Combien de villes accueillant la Coupe du Monde en Russie pouvez-vous me citer? Il y en a certains d'entre vous qui vont y aller.
Combien il y en a? Tu dis 11?
Non, non. Il y en a 11 au total.
J'en ai 6
6
villes sur 11.
Ok, 6 à ma droite. Vous donnez 7 ou pas, les gars?
Ouais.
7?
On donne 7.
Ah, les auditeurs, ils peuvent répondre.
On va y arriver.
7 à ma gauche. 8.
Non, nous on est à 7, mais
T'es à 7?
8. Il y en a 11 au total, hein. 8, c'est pas mal, hein. Si vous avez arrivé à donner 8 sur 11.
Laisse-lui les 7, alors vas-y.
Vas-y.
Attends,
Daniel, Thomas, et Samy, tu peux en donner un. Allez, on enchaîne.
C'est bon, Saint-Pétersbourg, Moscou.
Attends, doucement. Ok.
Saransk. Ouais.
Saransk, ouais.
Ekaterinbourg.
Ouais.
Kazan, Sochi.
Ouais.
Sochi.
Ouais.
Ah, il y en a.
Et Kaliningrad.
C'est bon.
Mais oui!
C'est
bon!
Il y en a
6
là.
Non, il y en a
7. Bravo.
C'est bon là-dessus. C'est bon,
c'est vraiment un coup de genre, toi, c'est fou.
Et toi, c'est incroyable, toi, tu veux me voir faire. Je te dis
que je comprends pourquoi tu vas pas, t'es pas invité au variété maintenant. Sale jour.
Très bien, super. Impeccable.
Messieurs, combien de pays ayant participé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil et absent en Russie, pouvez-vous me citer? Il y a 12 pays au total qui ne sont pas là pour cette Coupe du Monde qui débute dans 15 jours à suivre sur RMC, bien sûr.
Teasing à deux balles.
Messieurs, à ma droite, c'est à vous de commencer. Combien vous en citez? Non, c'est à qui d'ailleurs? Non, c'est d'abord Daniel et Thomas.
On a 4 pour l'instant.
4 sur 12. 5, les gars. Patrice, Jérôme, 5.
Ouais, 5, on va y arriver.
5? On est à 5 aussi, nous. 6
hein. Pour
alors,
vous ou pas?
J'ai dit 5.
Hein? Faut dire 6, ils ont dit 5. 6 ou pas 6? 6 sur 12. Combien de pays ayant participé à la Coupe du Monde 2014?
Bah, 6 parce qu'on sera complété par un autre auditeur qui est devant son écran.
Ok.
Non.
Bah, si, il a le droit d'en donner un.
Il
t'en a donné un tout à l'heure. Tu me racontes, toi.
Ça nous a pas fait gagner.
Mais ça, j'y peux rien. T'avais qu'à être con, mon gars.
Il est con.
6 du coup, les gars.
Vas-y, c'est parti. 6, 6.
Alors, 6, allons-y. Je vous laisse la main, les gars.
Non.
Allez-y, 6.
Alors, Italie.
Italie, c'est bon.
Moi, j'en ai 6.
États-Unis.
États-Unis, c'est bon.
Pays-Bas.
Équateur.
Ok, c'est bon, ouais. 1, 2, 3, 4, 5.
Paraguay.
4, 4. Non, il n'y avait pas le Paraguay.
Ah ouais.
Ah ouais.
Il y avait le Cameroun, le Chili, la Grèce, la Côte d'Ivoire, ouais, l'Honduras, ouais, la Bosnie, ouais, le Ghana et l'Algérie, les gars.
Oh là là, oh là là.
Ça fait un peu.
C'était, il y a des trucs évidents.
Question.
Quelle honte. Mais c'est un moins un, Paraguay.
C'est le truc là.
Oh, c'est quoi, si?
L'histoire du foot.
Question pour vous départager, messieurs.
Attention, les gars. C'est moi qui l'écris, c'est lui qui le dit.
Attention, il n'y a plus beaucoup de temps, les gars. Écoutez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Paraguay.
Combien de joueurs ayant disputé au moins 20 matchs de Coupe du Monde pouvez-vous me citer? Il y en a 7 au total. Okay. Au moins 20 matchs de Coupe du Monde. Joueur. 7 joueurs.
Miller.
Ah bah attends. D'abord, faut dire combien tu peux en citer. Un chiffre.
7.
À vous d'abord. À vous d'abord, Patrice.
7 joueurs dans l'ensemble?
Ouais. Il y en a 7 au total.
Bah
tu peux me dire 1 si tu veux.
Oh, ouais, on va commencer à 1.
On va commencer à 1. 2 les gars ou pas? Daniel et Thomas. 2 ou pas 2?
Combien de matchs?
20.
Putain, c'est beaucoup.
20, c'est beaucoup.
Oui, on en a 3, là.
Alors, 2, déjà? Tu pars sur 2?
Bah, 2, oui.
2? 3 ou pas, les gars?
Ouais, oui, 3.
4, Daniel? Non, bah non, oui, oui.
Ah oui, c'est
4, Daniel?
C'est 4.
Je suis pas sûr. Hein.
Bah, vas-y, on voit les 4.
Non, 3, 3,
il doit
aller.
3.
3, tu les as les
3? Tu sais quoi, ils les ont pas. Ça, je te le dis tout de suite. Écoute, allez-y, vous lâchez ou pas? Vous laissez la main, vous prenez les 4.
3, je lui lâche le temps.
Vas-y.
Il vient de m'envoyer les textos.
Mytho, vas-y, 3.
Donc fais 4 parce que t'as perdu.
Vous prenez 4 ou vous laissez?
Allez,
il reste 20 secondes, les gars. Faut dire oui et maintenant tout de suite ou pas.
Non, on laisse.
Ok,
mais si t'en as 3, t'as un auditeur.
Allez-y, 3 joueurs qui ont disputé pendant le match de Coupe du Monde.
Donc moi j'ai Müller.
Bah non.
Ah bon.
Ah bah voilà.
Et l'auditeur,
il gagne le point.
Il y avait Matheus Klose, Maldini, Sealer,
Maldini,
Smuda, ouais. Maradona et Schweinsteiger, messieurs.
Ouais. Vous en aviez ou pas?
T'as gagné, Samy.
Bon, avec
voilà. L'eau de t-shirt de l'after, c'est ça?
Il en a pas un.
Tu choisis, Samy, t-shirt ou DVD? Voilà, en plus,
choix. Je laisse mon cadeau à l'autre auditeur.
Ah bah c'est sympa ça, tiens. Voilà. Il laisse le cadeau à l'autre auditeur. Voilà.
Ah bah c'est bien, voilà. Ça c'est fair play. Bravo.
C'était quoi le cadeau?
Merci beaucoup, j'en sais rien. Merci beaucoup Patrice Anna d'être venu.
Non,
tu
merci.
Reviens quand tu veux.
Ah ouais, non, plaisir.
Merci, merci Mère Rockstar. Hein. Voilà.
Merci.
Moi, je remercie
merci.
Pas de bien. Merci beaucoup fois, Thomas, on rappelle. Héros oublié de la Coupe du Monde, voilà, aux éditions Contre Histoire. Voilà. Voilà un livre qui est beau et qui est bien à lire. Merci beaucoup. Ouais. Bonne continuation,
merci
Thomas. Merci Daniel, merci Jérôme, merci Jérôme Thomas, toutes les équipes techniques, bien entendu. À demain! Bisous! Ciao, ciao.
Non, ça va.
RMC, le super football show, l'After Foot.